mettez votre argent à la Société Générale, parce que les vitres sont anti-balles. Quand vous avez une petite somme, vous partez pour la Suisse. Déposez votre argent dans un endroit propice.
La Suisse, c'est la sécurité. Dans ces montagnes, ils se lèvent tôt, mais se réveillent tard.
Les armaillis des colombettes de bon matin s'en vont déjà.
On dit qu'il y a qui donc. Daki diski daki donye me da koku ki diski daki don kiraki diski daki donye on diki daki don daki diski daki donye me da koku ki diski daki don kiraki diski daki donye sabe on diki daki don daki diski daki donye me da koku ki diski daki don kiraki diski daki donye on diki daki don daki diski daki donye me da koku ki diski daki don kiraki diski daki donye. On dit qu'il a qui donc, la qui dit qu'il a qui donne, mais le coup qui dit qu'il a qui donc, qui dit qu'il a qui donne. On dit qu'il a qui donc, la qui dit qu'il a qui donne, mais le coup qui dit qu'il a qui donc, qui a qui dit qu'il a qui donne.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Campus Lille. Il est midi passé de quelques minutes. Vous venez d'entendre Jules Bocarn avec une chanson sur les cours du marché à terme. Inda qui disent qu'Inda qui ne don, des sous, hein, bien sûr. Inda qui ne donne rien de leur bien, etc., etc. Alors, le dicton du jour, à la Saint-Gérard, la récolte est encore au hasard. Autour des micros, Benoît Boussemard.
Oui, bonjour.
Voilà, très bien. Marc.
Bonjour.
Pierre, Pierrot.
Salut.
Et quelques invités surprises, on verra s'ils interviennent pendant l'émission. C'est pour un magazine durant lequel on parlera plus particulièrement d'économie politique, les bons calculs économiques, baissés en abrégé. Est-ce que vous connaissez quelque chose de plus moche que les sacs Vuitton, couleur de crotte, de caca? Moi, pas beaucoup. Enfin, ceci dit, il y a le TSCG que votent les députés et sénateurs que vous avez élus afin qu'ils ne le fassent pas et qui vous disent d'avoir confiance en eux. Ça fait si longtemps que tous ceux qui nous disent d'avoir confiance en eux nous mentent que l'on finit par se demander si ce ne sont pas eux qui, justement, commencent à douter de la confiance qu'ils ont mise en nous afin de faire ce qu'ils veulent. Jusqu'à quand allons-nous supporter tout ça? Parce qu'en Europe, ils nous infligent la double peine, la mondialisation, la Commission européenne, c'est épouvantable. Bon, Johnny Hallyday va revenir en France, d'autres la quittent, et Dodo Lassemure vient de se faire refuser la nationalité belge. Alors, tous ces changements de nationalité, ces immigrés. Benoît, dans ton dernier livre, tu annonçais déjà le départ de Bernard Arnault au lendemain des élections présidentielles, comme il l'a fait il y a 30 ans à l'arrivée de François Mitterrand. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Bien volontiers, puisque en avril 2012, non seulement on prévoyait que la gauche arriverait au pouvoir avec l'élection de François Mitterrand. Et François Hollande, ces deux François, ils sont très casse-pieds. Ces
la gauche.
C'est la gauche. Donc, François Hollande était au pouvoir. Et dans la foulée, on disait déjà, et je donne la page parce que c'est important, page 330 et 331 de l'ouvrage, on indiquait que Bernard Arnault allait s'expatrier. Alors effectivement, on pensait qu'il allait repartir aux États-Unis comme il avait fait en 81, puisqu'en 81, il s'était déjà exilé aux États-Unis.
Il a trouvé un autre point de chute.
Et donc, il a trouvé un autre point de chute. Alors, c'était assez amusant parce que moi, quand j'ai vu Libé « Casse-toi, Richcon », j'étais en vacances. Bon, j'ai pas pu réagir tout de suite parce que je le fais habituellement sur mon petit blog. Mais j'avais fait dans la foulée un petit article parce qu'il y avait un journaliste de Libération qui m'avait contacté en disant « Fume, c'est du belge ». Alors, « Fume, c'est du belge
», c'est facile.
C'est du... Bah oui, mais c'est ce qu'on disait il y a 40, 50 ans quand on avait encore les douanes et qu'à la guérite, le douanier, il vérifiait dans le petit sac qu'on avait quand on passait la frontière de chaque côté, qu'est-ce qu'on avait dans son sac. Et on ne pouvait pas prendre beaucoup de tabac parce que le prix du tabac en Belgique était bien inférieur. Et encore un tout petit peu inférieur à ce qu'il était en France.
La quantité variait, hein, puisque
ça dépendait
je
du
connais
douanier.
Bien la frontière. Ça dépendait du douanier, effectivement, on en reparlera un autre jour. Ceci dit, les gens qui habitaient dans les bleds, coupés en deux par la frontière, comme Comines, comme l'Hers, eux n'avaient droit qu'à un paquet.
Ouais, tout à fait.
Je rappelle que dans les magasins, il y avait une espèce de presse qui était là pour tasser les paquets, les faire aussi fin que possible, afin de les mettre dans la poche portefeuille.
Ce qui veut dire que la frontière, à l'époque, elle existait réellement.
La frontière existait réellement. Et bon, dans l'Interland, effectivement, il y avait souvent toute une série de petits magasins qui vendaient des tas de produits au prix de la Belgique, à destination, bien entendu, des Français.
C'est ça, il y avait un commerce basé sur ces différences de prix entre les produits en France et en Belgique.
Voilà, bon. et en France, c'était
l'argent circulait. L'argent circulait à l'époque.
Absolument.
Les francs belges et les francs français pouvaient sortir, rentrer, il n'y avait pas de contrôle.
Il n'y avait pas trop de soucis, on pouvait payer en francs français, en francs belges, même les anciens francs fonctionnaient très très bien. Donc moi, par rapport à Fume, c'est du belge, j'avais deux catégories de remarques sur l'exil de Bernard Arnault en Belgique. Un, sur la personnalité de Bernard Arnault elle-même. Quand Bernard Arnault dit qu'il va partir en Belgique, ça me semble évident, parce que ce personnage n'a qu'une seule religion, c'est celle du fric.
Du profit.
Point barre. Du profit. Il n'a jamais rien créé de sa vie. Jamais, contrairement à Guillaume Durand qui a mis un film de une heure pour essayer de prouver qu'il avait créé quelque chose dans sa vie, cet homme-là n'a rien créé.
C'est une légende.
C'est une légende complète. Il n'a jamais créé quoi que ce soit. La seule chose qu'il avait créée, c'est la croix, et il l'a virée. D'accord ? Donc il n'a jamais rien créé du tout. Donc il ne cherche qu'à faire de l'argent. Et il a fait de l'argent en faisant quoi ? En faisant actionner des réseaux. Des réseaux d'abord avec la gauche, parce qu'il est revenu rapidement en France en 83. Et c'est là qu'il a racheté le groupe Agache-Fuyot.
Les Dalton.
Avec de l'argent que l'État français lui a prêté.
Avec de l'argent de l'État français. Et comme ça, il a récupéré Dior, Peau Douce, tout le groupe Boussac Saint-Frère, etc. Et qu'est-ce qu'il a fait dans la foulée ? Il s'est engagé à garder tous les emplois textiles, habillements qui étaient dans ces groupes.
Mais les promesses n'engagent que ceux qui y croient.
Tout à fait. Ça, c'est...
C'est encore une vérification.
Le grand classique. Et donc, dans la foulée, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vendu rapidement Peau Douce 700 millions de francs à l'époque. Et il s'est fait des liquidités. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a trouvé un partenaire assez intéressant, puisqu'il était à Polytechnique comme lui, c'était Christian Dervelois. Et Christian Dervelois, qui venait de récupérer une partie de la lainière de Roubaix avec le décès de Prouvot, il avait besoin d'étendre son empire textile, puisque Chargeur avait repris toutes les activités lainières, peignage, etc. Et donc il a refourgué rapidement à Dervelois, qui a créé ainsi le groupe Vitos Établissement Vitou, VEV, un nouveau groupe énorme textile qui comprenait Boussac Saint-Frère.
Tout ça avec des manipulations financières, toujours sans rien créer.
Sans rien créer. Sous l'époque, à l'époque, c'était Fabius.
C'est du papier.
C'était... Et des financiers.
Des financiers.
D'accord. Mais il ne faut pas croire qu'Arnaud n'avait pas d'argent. Arnaud avait beaucoup d'argent déjà à l'époque. Enfin, relativement par rapport à...
En deux secondes, il avait hérité d'une petite entreprise familiale qui était Ferré
Savinel. Non, c'était toujours Jean Arnaud, son père, qui gérait.
D'accord.
Et donc lui, il avait Ferré Savinel. Et bien évidemment, il avait transformé Ferré Savinel, qui était un constructeur de maisons.
Un groupe...
Il l'avait transformé en quoi ? Il l'avait transformé en spéculation foncière, en vendant des maisons et en faisant de l'immobilier et non plus de la construction immobilière.
De la spéculation sur le foncier.
Sur le foncier. C'est-à-dire que Ferinel en question, c'était les maisons au bord de la mer, etc. On voit encore des tas de constructions comme ça qui datent de l'époque. Il a bétonné une partie de la Côte d'Azur, etc. etc. Donc,
c'était encore son père, là ?
C'était encore son père et lui. Lui a eu l'idée de passer de la construction vraiment du dur à de la spéculation immobilière.
Et à sous-traiter la construction.
À de l'immobilier pur. Mmh. Et à sous-traiter, bien entendu, ce qu'il a fait d'ailleurs avec le textile après. Donc, il y avait cet argent-là, mais c'était largement insuffisant pour fonder un groupe comme LVMH. Donc, il a bénéficié immédiatement des 700 millions de pots douces. Et bien entendu, il a revendu tout de suite aussi à Pinault Conforama.
Et pendant toutes ces ventes et reventes, le personnel de ces établissements ?
Ben, le personnel de ces établissements, il n'a pas eu à les licencier puisqu'il les vendait à quelqu'un d'autre. Et c'est les autres qui ont licencié. Il ne reste plus rien de la lignière de Roubier. Il ne reste plus rien de la lignière de Cambrai-Rodier. Il ne reste plus rien du groupe Boussac, pratiquement. Mmh. Et donc, on a licencié des dizaines de milliers de personnes. Mais c'est jamais Bernard Arnault qui s'est sali les mains avec les licenciements.
Le sale boulot, c'était les autres.
C'était les autres après. Lui, il avait pris ses engagements. Ensuite, il vendait. Bah, c'était du business. Quoi. J'achète, je vends. C'est normal qu'on est dans une économie
de marché. Un peu comme Bernard Tapie ou c'est différent ?
Ah non, c'est très différent de Bernard Tapie. Bernard Tapie ne fait pas partie du même monde. Arnault était quand même quelqu'un qui avait des relations familiales avec les empires textiles du Nord. Il était marié avec une fille du textile. Sa sœur était mariée avec un mari du textile. C'était les grandes familles, les Watine, etc.
Les réseaux que tu évoquais au départ.
C'est les réseaux. Et donc, derrière ça, il y a les réseaux financiers avec Bernheim qui vient de mourir. Et toute la banque, Lazare, etc. Donc, ils ont bénéficié d'un environnement financier et de réseaux textile extrêmement important. De Wavrin pour l'autre famille textile. Donc, on est dans un système où l'argent existe, mais l'argent Arnault père était largement en dessous de l'argent des familles Watine et Douaura. Hein.
C'est pas la même échelle.
C'était pas la même échelle. C'était les textiles qui tenaient encore le haut du pavé à l'époque par rapport à des constructeurs qui étaient quand même de taille modeste.
Quand tu dis à l'époque, c'était dans quelles années tout ça ?
Les années 80.
Les années 80.
Hein, 83.
Déjà, 80. Le textile s'était barré. La fabrication s'était barrée.
Non, ça commençait à peine. Hein, quand même, il y avait des esquisses de délocalisation, etc. Il y avait trois grosses stratégies. Hein. Il y avait la stratégie de modernisation du textile. Et donc là, on a commencé à mettre en place des tas de nouveaux métiers automatiques, etc. La première cause de disparition des emplois textiles, c'était la mise en place de ces automatismes. Les métiers à tisser sans navette, les tisserands, c'est un petit peu comme ce qu'on connaît dans la grande distribution maintenant. On met en place des caisses automatiques, on n'a plus besoin de caissières.
Les nouveaux canuts.
Bah oui, donc il y avait les métiers à tisser, il y avait toute la filature open-end qui faisait disparaître des tas d'opérations à l'intérieur de la filature textile.
Et ça avait été bien programmé, et les responsables le savaient.
Absolument.
Depuis les années 60 même.
L'essentiel.
C'est pas arrivé comme ça dans les années
80. La moitié des emplois textiles qui ont disparu dans les années 80-90, elles étaient liées à la modernisation. Une autre partie était liée à des délocalisations. C'est-à-dire la stratégie des grands groupes textiles a consisté à dire, pour DMC, Prouveau, etc., il faut que, et on trouve ça maintenant, on prend le cas de Mittal ou d'autres sociétés.
Même processus.
Le processus est exactement le même. Qu'est-ce qu'on fait ? On dit, il faut faire de la péréquation des coûts. On prend PSA, qu'est-ce qu'il dit ? J'ai de la main-d'œuvre trop chère en France, il faut que je fasse fabriquer ailleurs. Renault dit exactement la même chose. C'est une logique radicale. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va fabriquer en Roumanie, on va fabriquer en Pologne, on va fabriquer en Tunisie,
enfin c'est fini
etc.
maintenant.
La Tunisie, c'est encore très 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 bien.
Le textile est même délocalisé à l'Iran à la belle époque.
Il y avait plein de textiles qui ont été délocalisés. La grosse partie textile qui a été localisée au départ, c'est Corée du Sud, Mexique et tout près de chez nous, l'Espagne et le Portugal. La main-d'œuvre portugaise, elle valait 4 fois moins cher à l'époque que la main-d'œuvre française. Donc tout ce qui était les opérations d'habillement ont délocalisé d'abord vers l'Espagne, Portugal, toute l'Allemagne de l'Est, les autres pays de l'Est, et puis une grande partie du Maghreb. Et puis
donc,
après,
donc le textile a été l'illustration parfaite de ce qui allait se passer, de ce qui se passe maintenant avec les autres branches, autres secteurs industriels.
Le textile habillement est la première industrie qui a servi de modèle pour la généralisation ensuite de la division internationale du travail qu'on connaît maintenant, qui s'est accentué avec la financiarisation. Et donc, dans ce contexte-là, on est dans un cas type où pratiquement tout ce qui est coût de main-d'œuvre important relativement, hein, ce que j'avais dit la fois dernière, qu'est-ce que représente le coût du travail chez PSA et qu'est-ce que représente le coût du travail chez Renault par rapport à ce que représente le coût du travail chez Volkswagen. On avait bien vu que le coût moyen d'un Allemand chez Volkswagen était plus cher en termes de coût du travail que celui de chez PSA ou Renault.
Tu reprends une remarque de langage, le coût du travail, c'est un langage profondément capitaliste. Le
coût du travail,
c'est
deux choses.
C'est la rémunération du travail.
Le coût du travail, non, c'est deux choses. Le coût du travail en termes économiques, c'est le salaire net plus toutes les cotisations sociales par salariale, plus les cotisations sociales par patronale. Ça, c'est ce qu'on appelle le coût du travail. C'est ce que doit débourser un entrepreneur pour obtenir une quantité de travail donnée.
Et le coût du capital, c'est quoi ?
Il n'y a pas de coût du capital.
C'est gratos, le capital.
Le capital, c'est gratos. D'ailleurs, en Belgique, il est encore plus que gratos. Et on verse des intérêts notionnels pour ne pas payer d'impôts. Donc, c'est génial. D'ailleurs, au Champ, par exemple, on profite largement dans ses filiales financières.
Donc, ça, c'est une remarque de langage. Vas-y.
Mais c'est important. Après, je reviendrai sur une autre manière de voir les choses. Donc, en langage capitaliste, effectivement, c'est le coût du travail. Mais ce coût du travail, même lorsqu'on en parle et qu'on compare vraiment les choses, c'est vrai qu'on dit des tas de bêtises. Donc la première bêtise sur Arnaud, c'est que c'est un homme qui a créé des emplois et que c'est quelqu'un qui est un créateur d'entreprise. Il n'a jamais rien créé de sa vie.
Et s'il s'en va, ça va être le drame, mais comme effectivement ce que tu viens d'expliquer.
Ah oui.
Il se barre avec son pognon, en fait.
Tout à fait.
Oui, et encore parce qu'on le laisse partir.
Les Belges disent, Bernard Arnaud crée des emplois en Belgique. En 4 ans, il en a créé 7.
Non.
En Belgique, ne serait-ce que pour.
Il en a détruit en Belgique, tu plaisantes.
Oui, c'est ce qu'ils disent.
Je vais arriver, moi.
C'est ce qu'ils disent, mais au niveau des sociétés financières, il faut bien quelqu'un
au niveau financier, oui.
Pour trier le courrier.
Chez Carrefour, qu'est-ce qu'il a fait avec Carrefour Belgique? Il a liquidé la moitié de Carrefour Belgique depuis qu'il est rentré chez Carrefour. Ça a fait des sacrées polémiques, puisqu'ils ont fermé des tas de magasins où ils les ont vendus à d'autres distributeurs belges.
Ils les ont franchisés.
C'est quelqu'un qui crée vraiment beaucoup d'emplois, mais pas pour lui. Lui, les emplois, c'est vraiment un coup pour lui. Et en France, même chose. Vous regardez le petit bouquin toujours avec page 287. Les emplois français de M. Arnaud sont considérables. Il emploie 18 670 personnes en 2004. Il en emploie combien en 2010 ? 18 679. Il a créé 9 emplois sur combien ? Oh, sur 7 ans. C'est génial.
Je ne te poserai pas la colle de combien il s'est enrichi pendant ces 7 années-là. Oui, je sais que tu peux trouver les chiffres.
Il a réponse à tout.
Il a réponse à tout.
LVMH, le capital, les fonds propres de LVMH en 2005, c'était 10 milliards 484. C'est combien en 2011 ? 23 milliards 512.
Voilà, donc...
T'as la réponse.
Ouais,
taux de profit moyen, 16,4%. Taux de profit, quand tu parlais du coût du capital, c'est pas un coût, le capital, ça rapporte du pognon. 14 milliards de plus en l'espace de quelques années. Donc, on est sur un système où il a rien créé, lui. Alors, dans les 9 emplois qu'il a créés sur les 7-8 années en question, il y a son fils, bien sûr, qui est dedans, puisqu'il était étudiant et maintenant qu'il a un poste éminent... en fonction de ses mérites, bien évidemment, dans le groupe. Donc, première remarque sur la personne de Bernard Arnault, il n'a rien créé du tout. Deuxième remarque sur Bernard Arnault, effectivement, c'est un spécialiste de sa délocalisation à lui, de sa propre personne, puisqu'il partait aux États-Unis. Donc, il s'était déjà délocalisé lui-même, et maintenant, il se redélocalise à nouveau vers la Belgique.
Alors, il est parti aux États-Unis et qu'il est revenu, pourquoi il est revenu ?
Il est revenu parce qu'il y avait des bonnes affaires à faire en France. Il a commencé...
Parce que la droite était revenue.
Il a commencé...
Ça correspond à un mouvement...
une 83, c'est quoi ? C'est le passage...
L'austérité.
C'est le passage d'une économie qui était une économie qui était devenue quand même très socialiste. Il avait eu peur du couteau entre les dents avec les
nationalisations,
du gouvernement. Les nationalisations, tout ça, c'était pas sa tasse de thé. Alors, il était parti aux États-Unis, la mort dans l'âme, parce qu'il adore la France, bien évidemment. Et donc après, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il était revenu quand il a vu qu'en 83, il y a eu un fameux tournant, le tournant de la rigueur. C'était la rigueur déjà à l'époque.
De l'or.
Fabius au budget. Quand on parle de... Il y a eu des décisions qui ont été prises par Lydie, le Syrie, etc. à l'époque, en faveur, puisqu'il y avait une bagarre entre Arnaud à l'époque pour reprendre Boussac, notamment avec Biderman, Arnaud l'a obtenu, c'est pas pour rien, quoi.
Alors,
ça, c'est mon premier commentaire sur Fume, c'est du belge.
D'accord.
J'en ai 3 autres.
Donc, qu'est-ce que vous préférez, une chanson ou des extraits de la RTBF sur cette affaire ? Parce que, j'ai pas compris pourquoi Arnaud n'a pas mis un peu plus de discrétion dans son déménagement. Il aurait pu faire ça sans l'annoncer, sans se faire interviewer à la télévision. Mais ça a permis, en Belgique et probablement dans toute l'Europe, parce qu'il ne faut pas oublier que la communauté européenne a son siège à Bruxelles, ça a permis de lancer le débat. Mmh. Et en Belgique, le débat a été sacrément lancé sur l'inégalité de la fiscalité, sur ces milliardaires qui viennent bénéficier des subventions de l'État belge uniquement en déménagement. déménageant pardon, leurs domiciles fiscaux. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de fuite des capitaux, il n'y a qu'un un changement d'adresse. On se passe l'extrait de la RTBF, hein, c'est Marco Vanès. On vous en avait parlé lors de la dernière émission, finalement, un point de vue très intéressant, et c'est quelqu'un qui nous montre comment le système fonctionne. Donc, Marco Vanès, extrait de la RTBF.
Si vous permettez, je voudrais remercier personnellement trois de vos invités qui m'ont fait un cadeau l'hiver passé autour de la Noël. Donc il y avait Gaspard Magnette, Balthazar Chastel et Melchior Watley, bien sûr.
Donc qui
m'ont en fait augmenté, enfin ou qui ont plutôt diminué la future pension que j'aurai comme fonctionnaire. Puisque c'est le gouvernement qui a décidé ça. Alors vous allez dire que ça n'a rien à voir avec le sujet, hein, je le savais. Mais non, je pense que c'est au centre du débat, parce qu'effectivement, si on offre un paradis fiscal à certains comme Bernard Arnault, eh bien la politique d'austérité que mène le gouvernement va s'intensifier et va être d'autant plus dure pour la majorité de la population.
Alors je reviens à ma question, qu'est-ce que vous pensez de cette démarche de Bernard Arnault qui demande la nationalité belge ?
Alors, je pense que ce qui est choquant, c'est moins la demande et la démarche de Bernard Arnault que la législation belge, qui est en réalité un paradis fiscal à plusieurs égards, hein, donc puisque on sait qu'il n'y a pas d'impôt sur la fortune et que c'est le premier lieu d'exode pour les exilés fiscaux français. On sait qu'il n'y a pas on sait qu'on a créé les intérêts notionnels qui permettent aux sociétés de payer très peu. Et justement, j'ai découvert que Bernard Arnault profitait également depuis plusieurs années de ses intérêts notionnels. Il profite d'autres cadeaux. Il a profité notamment des plus-values sur actions, des RDT, enfin l'arsenal législatif.
Est-ce qu'il faut l'accueillir chez nous à bras ouverts, ou bien vous faites la fine bouche, ou bien vous dites qu'il reste bien chez lui?
Moi, j'aurais tendance à dire accueillons-le et instaurons un impôt sur la fortune avec une exit tax, donc un impôt de sortie.
Ma question, c'était...
Voilà, donc ça, c'était Marco Vanès. Donc Marco Vanès est un fonctionnaire du ministère des Finances, qui est en même temps délégué syndical et candidat aux élections communales qui vont avoir lieu début octobre pour le PTD. PTB, pardon, le Parti des Travailleurs Belges. Ceci dit, les chiffres qu'a publié Marco Vanès sur Bernard Arnault, sur la fiscalité des grandes entreprises belges, ont eu un grand écho donc le mois dernier. On a parlé de ses études dans beaucoup de journaux, comme on parle parfois d'Étienne, Benoît. Je vais vous mettre la suite de cet échange. On y parle un peu de la France. Vous en apprendrez plus sur la fiscalité belge. Après tout, on est voisins, vous êtes belge. Vous avez peut-être envie de vous domicilier en Belgique, fiscalement. Bon, vous allez en apprendre un peu plus. Mais si vous êtes salarié avec un salaire jusque cadre supérieur, ne le faites surtout pas, parce que là, vous allez en prendre plein la tronche. Hein. On appelle ça le précompte mobilier, si mes souvenirs sont exacts, en Belgique. Il vous restera quasiment rien.
Est-ce que le citoyen lambda qui achète des actions, entre parenthèses, qui peut acheter des actions belges, de sociétés belges, et qui les revend avec un bénéfice, avec une plus-value, est-ce qu'il faut le taxer? Pour l'instant, ça ne l'est pas. Albert, oui ou non?
Albert Frère est un citoyen belge. Donc voilà. Donc,
oui, mais vous prenez tout de suite l'exemple, évidemment, le plus...
Parce que c'est eux qui en profitent le plus. Donc c'est eux qu'il faut montrer... un exemple. J'ai donné celui-ci. Je peux vous donner aussi l'exemple de l'impôt sur la fortune. On en a parlé tout à l'heure, vous ne m'avez pas donné la parole, mais je pense qu'il faut quand même répondre sur ce que les informations fausses qui nous ont été données sur l'impôt sur la fortune. Par exemple, la fuite des capitaux, c'est une vaste blague. Et ça, le Sénat français l'a montré. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme fuite? Il y a une fuite de domiciles fiscaux. Quand Bernard Arnault vient en Belgique, ces sociétés restent en France, donc il n'y a pas de fuite de capitaux. Et ça, le Sénat français le montre. L'inefficacité de l'impôt sur la fortune en France. Vous savez quel est le rapport entre le coût et le rendement de l'impôt en France sur la fortune? Il est de 43. Donc ça rapporte 43 fois plus que ce que ça coûte. Donc je ne vois pas en quoi un tel impôt pourrait être inefficace. Allez, la taxation des revenus du capital, certains n'en payent pas. Alors qu'un épargnant ordinaire va payer du précompte, je ne vais pas reprendre les exemples d'Albert Frère, mais ça pourrait être le cas. À partir du moment où on détient des actions via une société, on bénéficie du système des revenus définitivement taxés et on ne paye pas du tout d'impôt sur ses revenus du capital. Donc là, c'est une autre injustice flagrante. Encore une fois, les plus riches s'en sortent mieux. Pour eux, c'est vraiment un paradis fiscal. Et alors, au-delà de ça, je pense que la question de l'impôt sur le patrimoine reste, parce que la taxation des revenus du capital, ça touche tout le monde. Mais l'idée d'un impôt sur la fortune, ce serait de ne toucher que les plus riches, donc les 2% les plus riches de la population. Donc le PTB a lancé sa taxe des millionnaires, donc depuis quelques années, où on voit c'est gratuit pour 98% de la population. Donc voilà, c'est un impôt qui, vous demandiez quel taux, ben ce serait un taux de 1 à 3% sur les capitales, les patrimoines à partir de 1,5 million d'euros. Donc tout ce qui dépasse sera taxé à 1%. Et puis au-delà de 3%. Et ça pourrait rapporter 8 milliards d'euros. Et donc on s'est basé justement sur les exemples de la France.
On l'a bien vu à votre baril de poudre, là vous pouvez le
voir. Voilà. Donc ceux qui pensent.
Le PTB aussi est en campagne apparemment.
Donc ceux qui pensent que ce n'est pas réalisable, que ça ne rapporterait pas beaucoup un impôt sur la fortune, eh bien voilà, il y a une étude qui peut, à mon avis, vous éclairer et qui se base notamment sur l'exemple. Je constate une indulgence incroyable des autorités belges à l'égard des paradis fiscaux, puisqu'on parlait de la Suisse. Il n'y a pas que la Suisse. Donc quand je vois des ministres comme par exemple le ministre Marcourt qui justifie que des subsides wallons soient donnés à des entreprises qui ont des filiales dans les paradis fiscaux, je trouve ça absolument aberrant. Et donc je pense qu'il n'y a pas de volonté en Belgique de lutter véritablement contre la fraude fiscale, ni de faire payer les riches d'une manière générale. Et donc je pense que le problème, c'est que l'austérité, c'est les travailleurs qui vont la payer, ça c'est ce qui va se passer dans les mois à venir. Donc voilà, est-ce que les gens veulent payer ou est-ce qu'il faut plutôt faire payer ceux qui ont les épaules financières les plus lourdes ?
Voilà, donc la Belgique, même sujet de préoccupation que la France. D'après mes souvenirs, Marco Van Hesse passera dans une émission d'Antenne 2 demain soir à 22h15.
France 2, pardon,
mais je ne sais plus le titre de l'émission, mais c'est vers 22h15, France 2.
Avec Benoît Duquesne, c'est ça ?
Oui. Probablement.
Ouais, donc il faut regarder ça. Ah, oui, ça risque d'être assez intéressant.
Ah oui, c'est croustillant. Ouais. C'est croustillant. Si vous avez jamais vu un chasseur de milliardaires avec sa caméra, son appareil photo, longer des grands parcs déserts avec des châteaux et autres. Ben voilà, c'est Marco. Cette image m'a quand même assez étonné.
Transfert de milliardaire, c'est un nouveau métier ça.
Ah, transfert de milliardaire. Donc ouais. Albert Frère, lui, il vient faire son business en France. Hein, il empoche. D'abord, c'était assez étonnant. Enfin, il a créé sa fortune en Belgique et puis il est domicilié fiscalement en Belgique. Il est commandeur de la Légion d'honneur, c'est ça ?
Absolument. Je sais plus, comme Bernard Arnault d'ailleurs.
Ben oui, voilà.
Et donc, mais j'avais trois petites autres remarques.
Oui, vas-y.
Par rapport à ce que j'ai pu entendre dans la presse sur pourquoi Bernard Arnault partait en Belgique. Ben, il y est depuis très longtemps en Belgique.
Oui, bah oui.
Attendez, je veux dire, les gens confondent le domicile et l'expatriation d'une résidence fiscale avec la présence financière et économique des grandes entreprises. Bernard Arnault est en Belgique depuis le problème d'Agachuillot et de Boussac-Saint-Frères. Il avait déjà des sociétés comme Le Peignan en Belgique, etc., qui montraient une présence extrêmement importante. Il a repris Carrefour. Comment il a repris Carrefour ? Il a repris Carrefour avec des sociétés belges et luxembourgeoises. Donc il était déjà là depuis belle lurette. Personne n'a parlé de ça, sur la présence déjà effective de Bernard Arnault en Belgique. Hein. J'ai pas entendu ça, surtout sur les mauvaises affaires qu'il a faites avec Carrefour. Je parlais tout à l'heure de Carrefour et des destructions d'emplois qu'il a fait sur Carrefour Belgique. C'est impressionnant. Hein, bon, on pourra en parler une autre fois. Deuxième chose, on disait... J'ai entendu aussi ça. J'étais vraiment... excusez-moi l'expression, sur le cul. Bernard Arnault venait s'installer en Belgique parce qu'il était très copain avec Albert Frère. Mais ils sont copains depuis très longtemps. Tu en parlais.
Je croyais qu'il était à Paris.
Et donc, Albert, il fait partie du conseil d'administration de LVMH, du groupe Arnault, etc. Et ils se connaissent copains comme cochons. Ils ont déjà fondé plein de sociétés communes, pour reprendre des sociétés françaises et faire des montages financiers de toute nature.
Et ça depuis 30 ans.
Et ça depuis très très longtemps. Et récemment, ils ont fait des fonds d'investissement en commun. Donc c'était déjà fait. C'est pas pour ça qu'il vient en Belgique, je veux dire, Bernard Arnault. Et donc, notamment, il y avait Albert Frère qui possédait 18% du capital de groupe Arnault via deux sociétés. Et il y a 3 ans, ces deux sociétés, très mystérieusement, action pour action, sont passées des poches d'Albert Frère aux poches de Bernard Arnault.
Donc à prix nominal.
À prix nominal, c'est-à-dire pour quelques centaines de millions d'euros, alors que ça valait plusieurs milliards. Aucune possibilité de vérifier ça, puisque Bernard Arnault ne publie plus ses comptes.
Et c'est pour échapper à quoi ? Aux impôts, là ?
Bah là, manifestement, c'est du portage de titres. qu'on ne peut pas prouver pour l'instant parce qu'Arnaud ne publie plus ses comptes de groupe Arnaud depuis 3 ans, comme par hasard. Et puis on ne sait pas où c'est.
C'est légal ou illégal ça ?
Ah bah, toutes ces choses-là sont légales. On peut faire ce qu'on veut. On est quand même dans une économie de marché. Hein. Il faut que je te le rappelle. Ah, bah, tu n'as pas l'habitude de parler de ça.
Il faut rafraîchir la mémoire, même à nos auditeurs.
Oui. Et après, troisième raison, Bernard Arnault, il irait s'installer en Belgique pour des questions fiscales. Bah, pas du tout. Il a plein de bonnes raisons de rester en France pour des raisons fiscales. Puisque quand on a fait les calculs sur les 500 millions de bénéfices encaissés par Groupe Arnault, hein, pas LVMH, Groupe Arnault, entre 2000 et 2008, il y a 72 millions qui viennent de reversements du Trésor français vers Bernard Arnault. Donc moi, je paye des impôts pour Bernard Arnault, c'est quand même sympa. Et donc, le petit contribuable reverse 72 millions d'euros sur les 500 millions de bénéfices de Groupe Arnault en France.
Les contribuables, il n'y a pas que les petits contribuables, même les cadres moyens, bon, les cadres supérieurs. N'oublions pas, nous sommes tous associés.
Les cadres, c'est les gens qui payent relativement le plus d'impôts par rapport au revenu.
Donc je reviens sur l'aspect légal de toutes ces manips que tu nous expliques. Ouais. Ça veut dire que la loi française, telle qu'elle est faite actuellement, permet toutes ces...
Mais bien évidemment, c'est ce qu'on disait avec les questions de précompte, etc.
Et est-ce que cette loi fiscale va être modifiée avec le changement qui a eu lieu au mois de mai?
J'ai pas l'impression. Non. Ça doit être bizarre, ça. Mais enfin, j'ai dû perdre quelque chose en cours de route. Hein. Et donc, à la fin des petites remarques sur fume, c'est du belge, j'ai compris pourquoi. Il va pas acheter du brouteux pour fumer la pipe hein, en Belgique, Bernard Arnault.
Il va le faire
brouteux,
pour son
c'était
papa.
Bien. Hein, mais bon, qu'est-ce qu'il va faire?
Il va payer la taxe sur la bière.
Il va peut-être payer la taxe sur la bière, mais en France.
Ah non, il va aller en Belgique pour ne pas la payer.
Donc, justement. Et donc, la Belgique, c'est deux choses extrêmement intéressantes. C'est ne pas payer l'impôt sur la fortune. Si jamais il décide de laisser les rênes du groupe à ses enfants, il n'aura plus de problème de patrimoine qui est un patrimoine économique.
De transmission de patrimoine.
Donc dans ce cas-là, c'est la même chose que pour la famille Mullier. Quand les familles Mullier laissent le témoin aux enfants, ils n'ont plus de patrimoine économique, donc leurs titres, ils sont imposés sur la fortune. Gérard Mullier est toujours en France. Pourquoi ? Parce qu'il gère toujours en France une série de sociétés dont il est officiellement le gérant, et donc il n'a pas payé d'impôt sur la fortune en France pour cette raison-là. C'est pour ça qu'il y reste. Les autres membres de sa famille, dehors. Par contre, extrêmement important pour Bernard Arnault d'avoir un domicile en Belgique, pas d'impôt sur les successions. Et donc le petit domicile, c'est du côté de Uccles, si j'ai
De Uccles, oui.
J'ai vu les images.
Je ne me souviens plus du nom de la rue, mais faites une recherche dans les articles du journal lesoir.be, vous trouverez le nom de la rue. Il y a des photos de son appartement.
Ouais. Et pendant ce temps-là, les licenciements continuent.
Oui, pendant ce temps-là, ça continue.
Et donc Carrefour vient d'annoncer combien? Alors, c'est pas.
J'ai pas le chiffre en tête.
Ce qui est assez amusant, c'est, ça va permettre de faire une petite transition par rapport à un petit débat qu'on devrait avoir, je crois, qui est important, c'est que je regarde le. Enfin, je regarde pas, non, je lis pas le Figaro, mais j'écoute ce que dit le Figaro. Et le Figaro prévoyait fin avril 3000 licenciements chez Carrefour. Réellement, on a annoncé Plassat récemment 600. Il y avait déjà 400 qui étaient partis, des fins de CDD, des choses comme ça. Divisé par 3. C'est une grande victoire de Montebourg.
Il l'a dit.
La seule chose qu'il faut faire maintenant pour faire des licenciements, c'est d'annoncer avant au Figaro qu'on va faire 3 fois plus de licenciements que ce qu'on doit faire réellement. Puisqu'on dit c'est 3 000 au départ et 1 000 à l'arrivée, Montebourg, il applaudit.
Donc, c'est une grande victoire, voilà. Hein ?
Je prends un deuxième exemple, Sanofi. À Sanofi, on annonce en juillet 1 000 à 2 000 personnes de licenciés. Maintenant, on est arrivé à 900. Ouais, c'est génial. Entre deux, il a vu Hollande et puis Montebourg. Montebourg, c'est celui qui, grâce au Figaro, passe de un licenciement à la moitié d'un licenciement. Donc, je donne une possibilité à tout le patronat français de faire des licenciements comme il veut. Il annonce le double de ce qu'il doit faire. Il le fait paraître au Figaro.
Ça fait un bout de temps.
Et bien évidemment, ils avaient compris ça depuis très longtemps. Tu me tends trop la perche, là. Non. Et donc, dans ces conditions-là, c'est clair que ça fonctionne de façon parfaitement efficace. Ça donne la possibilité de licencier et ça permet au gouvernement de se dédouaner de son véritable boulot qu'il avait annoncé. Voilà. Hein. Je reviendrai sur ces licenciements.
Il y a beaucoup mieux. Il y a ce qu'a fait Auchan, qui annonce en fait des créations de postes supérieur au nombre de suppressions, même si c'est complètement farfelu, Et, la presse ne retient que le solde. Ouais. Donc, quand il y a une suppression de postes annoncée de 1600 postes supprimés, eux, ils en annoncent 1600 en plus, en considérant qu'ils ont créé qu'ils vont créer le double dans les années à venir.
Donc, même
s'il n'y a rien. Et donc, ils annoncent un solde de création de postes en même temps qu'une suppression. La suppression sera réelle. La création reste hypothétique
voilà.
et ça passe comme ça, voilà. Et ils sont tranquilles, personne n'en parle.
J'ajoute que qu'est-ce qu'une création de poste ? Vous embauchez deux contrats à durée déterminée pendant 6 mois, vous avez créé pendant 6 mois, l'un derrière l'autre, vous avez donc créé 2 postes. C'est un peu plus facile. Bon, une petite chanson, parce qu'une dernière révélation sur la Belgique, qui est vraiment le roi des Belges, c'est une chanson intéressante.
Le roi des Belges s'appelle Albert, mais n'est pas de Baudouin le frère. Le roi des Belges est milliardaire. Le roi des Belges, c'est Albert Frère. Il est le roi de la finance. Il règne sur un paquet d'actions. Il trône aux places d'importance des conseils d'administration. C'est un monarque patrimonial. Le roi des Belges s'appelle Albert, mais n'est pas de Baudouin le frère. Son palais est une maison mère. Le roi des Belges, c'est Albert Frère. Il se fait 1 million par jour au salaire de ses travailleurs. C'est la semaine des 100 000 heures. Sur ces sujets, qu'importe l'âge, il a droit de vie au chômage. Et si vous faites travailler plus, ce n'est pas pour le roi de Prusse, c'est pour le roi des Belges, Albert. Pas Albert de Baudouin le frère, baron sans terme et milliardaire. Le vrai pouvoir, c'est Albert frère.
Oui, donc, première révélation, le roi des Belges s'appelle Albert Frère. Et pour votre information, la dame qui chante est l'épouse de Marco Van Hees. Et à la guitare basse, Marco Van Hees. Ils font leurs chansons eux-mêmes.
Bah, oui,
nous, on fait nos émissions de radio eux-mêmes.
Absolument.
Donc, on va revenir à la France. Bon, on a parlé des licenciements. Enfin, la poste... Il y en a pas mal. L'éducation nationale, on voit comment elle a été nettoyée.
Alors, on nous annonçait qu'à la poste, il y avait 40 000 créations de postes. Là, la semaine dernière, là, c'est quoi ça exactement?
Non, c'est le SNCF. C'est la SNCF. Ils n'ont pas annoncé ça à la poste, quand même. Ou alors, j'ai pas entendu. J'étais encore en vacances.
Il y a encore eu un jeu. Le 40, c'est peut-être pas 40 000, mais il y a eu.
Ils vont créer des emplois à la poste.
Ils vont créer des emplois à la poste.
Oui, oui, si, si, il y a un appel. Si, si, il y a un.
Environ 5 ou 7 000 pour essayer de.
Le chiffre, effectivement.
Le social.
Ah, d'accord. C'est bon.
Alors, c'est le même mécanisme que ce qu'on vient de nous expliquer avant, quoi. On en a viré 20 000 et puis on en recrée 7 000. Et...
Ah, voilà. C'était la même chose dans l'éducation nationale. L'éducation nationale, perte d'emploi depuis des années. Même chose dans la police, d'ailleurs. On voit tout ce qui se passe. On recommence à créer quelques emplois, mais c'est loin de compenser tout ce qui a été détruit.
Et souvent, d'ailleurs, ce sont des emplois précaires.
Et la police, c'est beaucoup plus grave parce que, comment dire, un policier, bon, ils sont ce qu'ils sont. Hein, ils sont assermentés. Mmh. Ils doivent obéir à certaines procédures ou autres. Et on embauche à tour de bras pour les sociétés de surveillance, dont certaines ressemblent à des milices privées. On prépare un petit conflit, hein, quelque part. C'est quand même plus simple à utiliser
que
la police.
C'est un secteur qui a eu une croissance énorme.
Exactement. Mais pas des salaires. Hein.
Pas des salaires, non. Mais
la sécurité, tu veux dire.
Oui, la sécurité.
La sécurité, oui.
Pas la sécurité.
Alors, si je reviens aux sociétés qui licencient, j'ai entendu quelque chose qui me paraît également assez incroyable. Sanofi, c'est une société qui fait énorme profit.
Un truc énorme.
Sanofi. Hein. Donc, ils vont encore licencier 900 personnes. J'ai regardé quand même Sanofi, parce que Sanofi, ça vaut le déplacement.
Ça appartient à qui, déjà?
Ah, je vais y venir. T'es trop curieux de faire. Sanofi faisait 46 milliards de fonds propres en 2005. C'est passé à 56 milliards.
Donc 10 milliards de...
10 milliards de plus de capitaux propres. En même temps, pendant ces années-là, ils ont fait 34 milliards de bénéfices cumulés. Ce qui veut dire qu'il y en a 24 par rapport aux 10 milliards supplémentaires qui sont passés à la trappe. Ils sont allés où ?
Ils sont allés, voilà.
Ils sont allés dans la poche des actionnaires.
Des actionnaires.
Et je reviens à ta question, tiens. André, c'est qui les actionnaires de Sanofi ?
Ah, voilà.
Ah ! Puisqu'on a dit que c'était les actionnaires qui réclamaient des licenciements.
Paris doit tomber sur tout la clique.
Ah, tu vas voir. C'est pas triste. 31 décembre 2011, je regarde le rapport Sanofi. Le premier actionnaire, c'est qui ? C'est L'Oréal.
Bettencourt.
Madame Bettencourt. Incroyable.
Poste, madame aux enveloppes, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Elle fait des enveloppes aussi, mais d'autres formes d'enveloppes. Deuxième actionnaire, Total. Mais Total, qui est l'actionnaire majoritaire, principal de Total. On retrouve notre cher ami, le baron frère, qui est très présent dans le capital de Total via ses sociétés. Donc on est avec... des gens qui sont déjà avec un contrôle extrêmement important de ça. Et c'est eux qui réclament du pognon. Hein. On a bien dit que les licenciements, c'était pour augmenter ceux qui allaient vers les actionnaires. Ils se sont déjà sucrés 24 milliards en 7 ans.
Et tout ça dispensé de cotisations sociales. Hein. Il faut le rappeler au passage.
Bien évidemment, on ne va quand même pas faire payer des cotisations sociales sur ce truc-là. Bon. Alors je regardais après le reste de l'actionnariat, parce que ça vaut encore son pesant de cacahuètes. Principal actionnaire qui a franchi à la hausse, à la baisse des seuils que décide l'AMF, une société qui s'appelle Amundi. Vous savez qu'est-ce que c'est que cette société ?
Ben non.
Amundi, il avait 3% du capital. Il l'a franchi à la baisse à 2%, après il a retrouvé 2,98%, après il y a 2% du capital de Sanofi. Amundi, c'est le Crédit Agricole à 75% et la Société Générale à 25%. Ils font ce qu'ils appellent de la gestion d'actifs. Société de deux banques spécialisées dans la gestion d'actifs. Et ils disent, nous, on est vachement fiers parce que combien on gère d'actifs financiers là, au total sur nos fonds en Europe, etc., mais principalement en France et en Europe, on gère 659 milliards d'euros d'actifs financiers. Actions, obligations, etc., etc. Et ils disent, au niveau européen, il y a 5667 milliards de gestion d'actifs financiers. En Asie, 1236 milliards. Et en France, 723 milliards. Donc, les banquiers sont en train de faire les pleureuses à certains moments et continuent tranquillement à spéculer.
De palper au passage.
Et effectivement, de récupérer un maximum d'argent partout. Bon, Amundi, hein. Qu'est-ce qu'on a parmi les actionnaires de Sanofi ? Toujours des gens qui sont comme vous et moi, des petits actionnaires. Le Crédit Suisse.
Ah bon ? Qui c'est ?
Le Crédit Suisse. Ah bon, il avait 1% du capital, puis il est passé à 3, puis il est repassé à 2, puis il est repassé à 1. Bon. Un autre fonds d'investissement américain, Dodge & Cox. Et après, on a Natixis. Ah bon ? Natixis aussi. Bon. Donc, Total a fait la même chose. Total était à 9%, puis à 8%, 7%, 6%, mais il revient après. Donc, Albert Frère s'amuse en bourse. Et les seuls mecs qui perdent en bourse, c'est les petits actionnaires qui vendent parce qu'ils pensent que ça baisse, et après qui rachètent parce qu'ils pensent que ça va monter.
Oui, donc finalement, et ils organisent les opérations entre
Ils organisent entre les opérations. C'est manifeste, là, sur le cas de Sanofi, je veux dire. Ouais. On est clairement sur des franchissements de seuil, sur une seule année, qui sont des franchissements de seuil, à la hausse, à la baisse, etc., par des banquiers qui organisent le marché. Et on nous dit, mais les banquiers font plus ça du tout maintenant. Les banquiers, maintenant, sont devenus des gens raisonnables. D'ailleurs, il y avait déjà Sarkozy qui avait fait des tas de lois pour les empêcher de nuire. Et on allait voir ce qu'on allait voir avec la gauche au pouvoir. D'ailleurs, il me semble bien qu'une des, un des éléments qui interviennent en faveur de la signature du traité européen, c'est on commence à mettre des taxes sur les transactions financières, etc., etc. C'était le grand... acquis,
la grande question. La,
le grand acquis de François Hollande dans sa négociation avec Merkel. Ah bon, bah, manifestement, ils n'ont pas compris. Hein. Mais il y a dû y avoir quelque chose qui a dû m'échapper. Et, bon. Et ça continuait constamment comme ça les années précédentes. C'est-à-dire, ça montait, ça baissait, etc. Donc les banquiers continuent tranquillement à faire ça. Bon.
Il n'y a pas de raison que ça s'arrête.
Pourquoi tu veux que ça s'arrête? Ça marche très, très bien. Donc on est dans un système où nos petits banquiers s'amusent. Alors, même chose quand on regarde après Carrefour, ben, même problème. Hein, ça monte, ça baisse. Il y a des tas de titres qui se baladent dans tous les coins. Il y a des options qui sont prises. D'ailleurs, Bernard Arnault prend plein d'options. Il se fait échange des options avec Colony, son partenaire, etc. etc. Donc ça monte, ça baisse. Le petit actionnaire, il voit que du feu. Mais quand on regarde sur le long terme... ça bouge pas d'un poil. Hein. C'est-à-dire que Arnaud, il s'est toujours fait plomber pour 1,5 milliard. Donc, le grand créateur d'entreprise qui est Arnaud, quelquefois, c'est un tout petit joueur. On n'est pas sur des quelque chose qui fonctionne bien.
Benoît, qu'en est-il de la réalité des sommes que tu nous cites, de la réalité de cet argent? Est-ce que c'est de l'argent réel ou c'est de l'argent virtuel? Parce que les sommes sont...
Tu nous donnes des montants, mais c'est pas dans notre imagination même.
Est-ce que Bernard Arnault a tout ça dans sa poche, sous forme, dans un coffre-fort?
Mais c'est pas des coffres, c'est des titres. Donc un titre ne vaut que la valeur que tu lui donnes en bourse.
C'est une convention entre...
Ah, c'est pas une convention, c'est des gens qui achètent, c'est des gens qui vendent en bourse. Mmh. Donc, toi, tu achètes, toi, tu vends. Moi, tu estimes qu'un titre L'Oréal, maintenant, vaut telle valeur. Tu l'achètes à ce prix-là. Pas de bol, demain, L'Oréal annonce quelque chose qui est mauvais pour lui, le titre baisse.
Donc,
tant pis pour toi.
Je reste avec. Ouais.
Trois jours plus tard encore, L'Oréal annonce le contraire. Toi, t'as vendu parce que tu penses que tu vas perdre de l'argent, et puis L'Oréal...
Dame note, je suis fait.
T'as la différence. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. En plus, ils ont la possibilité d'acheter leurs propres actions pour réguler le marché.
Donc, à aucun moment, on voit de l'argent qui
circule. Ils ont le droit d'acheter des titres de leur propre société pour réguler le marché.
Et de détruire, encore, hein. Et de détruire les titres.
Alors,
je veux dire, ils achètent des titres, ils les détruisent.
Bien évidemment.
Ça fait monter le cours de l'action. Absolument. Et donc j'atteins mes objectifs en tant que PDG.
Tout à fait.
C'est terrible.
Quand on regarde par exemple Pinot, il a fait ça récemment avec le capital de Financière Pinot et de... comment s'appelle sa société? PPR.
Hein, Pinot Printemps Redoute.
Pinot Printemps Redoute, on a vu comment il a fait. Il a réduit le capital de PPR, et donc bien entendu il y a moins de titres, et comme la valeur reste la même théoriquement, bah, le titre monte. Mais c'est mécanique. Hein. Donc les gens qui ont cru que ça montait parce que c'était PPR qui avait fait des superbes affaires avec les sociétés qu'il a rachetées, Gucci, je vous rappelle, il a payé très cher. Et il va encore...
Donc est-ce qu'il est convenu d'appeler la crise en ce moment? Ça leur profite un max.
Un maximum.
C'est la crise, c'est pas pour eux.
Ah, la crise, c'est pour nous. Voilà, la crise, c'est pour vous. Ouais.
Oui.
Il faut prendre l'habitude de ça. Hein. Mais ils n'ont toujours pas compris, c'est quand même terrible. Hein. Bon, la crise, c'est pour vous. C'est pas pour eux.
On rappelle que notre Sherlock Holmes, celui-là qui est dans le studio, parce que tout ça, on peut le retrouver dans un bouquin, c'est des enquêtes que tu dois mener, tu dois passer ta vie à farfouiller pour trouver toutes ces informations. Mmh. Entre autres, on peut le retrouver dans un bouquin qui s'appelle « La collusion des pouvoirs face à la crise » et que l'auteur, c'est Benoît Boussemard, qui est notre invité aujourd'hui dans ce magazine.
Voilà. Alors, il n'y a pas que faire des enquêtes par soi-même ou de lire des livres comme celui de Benoît ou d'autres. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'économistes en ce moment qui
critiquent fondamentalement.
Ah oui, de toute façon, le système, il a explosé. Alors, si vous avez quelques disponibilités, je vous rappelle que le 10 octobre à 20h30, à la MRES, donc de rue Gosselier à Lille, bah, les amis du monde diplomatique vous invitent à une petite rencontre sur le thème « Comment penser le retour de la gestion de l'eau en régie publique à Lille ?» avec Pierre-Yves Pira. Oui, bah, on parle de la bourse, tout ça, mais il faudrait aussi qu'on se préoccupe de notre quotidien. D'après mes souvenirs, le contrat de gestion de l'eau de la communauté urbaine doit bientôt être renégocié, repasser à la moulinette. C'est l'occasion de s'informer et d'y comprendre quelque chose.
Et de rappeler que l'eau, c'est aussi un enjeu fondamental pour ce dont
Pas d'eau, c'est la mort. Hein. Ça, c'est évident. C'est ce dont on meurt le plus rapidement.
Ça va bientôt être un enjeu plus important que le pétrole.
Ah oui.
Bon, c'était un petit aparté.
Et c'est quand donc c'est le 10, rappelle, 10 octobre.
C'est le 10 octobre à 20h30. Il y avait par exemple, n'hésitez pas à les suivre, les amis du monde diplomatique faisaient une conférence donc lundi soir à la Rose des Vents. Bon, la prochaine, on vous l'annoncera.
Ouais, j'avais vu ça à la Rose des Vents. Mais j'étais encore en vacances, hein, je suis désolé. il faut bien que je prenne des vacances tous les deux ans. Hein,
On est intraitable, on te fait travailler. Absolument. T'as été à Knokke-le-Zoute
Non. Dans le sud. Donc, dernière petite chose qui est extrêmement importante par rapport à tout ça. On disait, qui est-ce qui en bénéficie? Bon, on le voit très bien avec le traité européen.
Tiens, le voilà, lui.
Le traité européen, il est fait pour quoi? Il est bien fait pour serrer la ceinture des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. On est dans un système actuellement...
C'est-à-dire avec la baisse des dépenses publiques?
Seulement il y a la baisse des dépenses publiques, mais il y a l'augmentation des impôts ou des taxes de toutes sortes, d'accord?
Pour tenter d'équilibrer.
Et il y a surtout le fait que le caractère démocratique, puisqu'on élisait encore notre Assemblée nationale pour voter un budget...
Pour l'instant.
Si ce traité européen passe... Il peut être censuré le budget par la Commission européenne.
Qui ne seront pas élus.
La Commission européenne n'est absolument pas élue. Elle n'a aucun caractère démocratique. Donc, d'année en année, on nous dit « Mais c'est pour votre bien, braves gens, que l'Europe se constitue ». Bon, moi, j'avais voté non, de toute façon, parce que j'avais bien vu qu'il n'y avait rien du point de vue social et que
depuis
toutes les avancées qui ont été faites, c'était pour la libéralisation d'une Europe faite pour les multinationales. Quand vous regardez fondamentalement le fonctionnement de l'Europe actuellement, les banquiers, ils n'ont pas de souci à se faire. Maintenant, la Banque européenne, avec la bénédiction de Merkel et Hollande, va pouvoir créer de la monnaie comme elle veut.
C'est une entreprise privée, la Banque européenne.
Oui, pour les choses qu'elle veut. C'est-à-dire, si les banques sont en difficulté financière, elle voudra bien prêter en dernier ressort aux banques, aux conditions des banques. Si les États ont des soucis, mais à condition qu'ils soient bien gentils, les États, par contre... Eux, ils devront faire les efforts et imposer à leur population ce qu'on impose en Grèce, ce qu'on impose au Portugal, ce qu'on impose en Espagne,
etc. Et en passant par l'intermédiaire des banques.
En passant, bien évidemment, par l'intermédiaire des banques, puisque au lieu que la Banque Centrale Européenne prête aux États, elle prête aux banques et les États empruntent à des taux plus chers.
Et d'où elle tient son argent, la Banque Européenne?
Ah ben, elle le crée. On peut créer autant d'argent qu'on veut.
Faudrait qu'on en
l'argent,
discute.
L'argent, c'est une convention. Hein.
Faudrait qu'on le fasse.
On croit à l'argent... Autant que
fallait le rappeler quand même.
On croit au billet qu'on a dans les mains. Un billet, ça vaut rien, c'est un bout de papier.
Et avant, ce pouvoir-là, c'était dans les mains du roi il y a longtemps, et dans les nations.
Mais je vous rappelle que les rois, quand même, historiquement, ils s'amusaient pas mal. Hein. Philippe le Bel, par exemple, quand il avait des pièces d'or, il les découpait en tranches, il récupérait une partie de l'or, et puis il dévaluait comme ça la monnaie nationale.
Et il n'y a pas que lui.
C'était
la petite méthode de création de monnaie, mais bon, il y a eu des tas de méthodes comme ça historiques qui font que la monnaie, ce n'est qu'une convention qu'on croit ou qu'on ne croit pas. C'est pour ça que l'euro, on y croit ou on n'y croit pas. L'euro comme tel, c'est pas bien ou c'est pas mal. C'est quelque chose qui peut être bien si, à côté de l'euro, il y a tout un ensemble de mécanismes et d'institutions qui font qu'on a une Europe qui se construit pour les gens qui sont en Europe. Or, construire quelque chose pour les gens qui sont en Europe, ça veut dire qu'on doit leur donner les moyens de se protéger contre des choses qui sont inadmissibles et qui font que l'Europe ne pourra jamais... préserver son modèle social qu'elle avait acquis très durement.
Et ça, dans l'éventail politique en France actuellement, de nos gros partis politiques, il n'y en a pas beaucoup qui nous l'expliquent, ça.
Il y a la gauche quand même, la gauche hors PS qui l'explique bien. Ouais. Par contre, tout ce qui est parti traditionnel sont en train de nous vendre une Europe qui est une Europe libérale, où bien évidemment les sociétés font ce qu'elles veulent, puisque de toute façon, ça fait longtemps qu'elles ont mis en concurrence les États. Ils ont commencé par mettre en concurrence les États, maintenant ils mettent en concurrence les grandes zones économiques. Donc les Chinois, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, font pas ça du tout. Ils ont un pouvoir qui est extrêmement fort encore.
Ils se protègent.
Et ce pouvoir protège les intérêts des firmes chinoises et du pays. Même chose pour les États-Unis. Contrairement à ce qu'on croit également, il y a beaucoup d'interventions de l'État fédéral qui protègent avec différents types de lois, les intérêts des entreprises américaines.
Et la Banque fédérale américaine protège et a pouvoir décisionnaire.
Oui, sauf qu'elle a quand même pas mal failli sous Greenspan avec tout un ensemble de manipulations qui ont été faites.
Des trucs.
Il faut rappeler quand même que les subprimes, etc., sont bien liés à la gestion de Greenspan et qu'ils savaient tous ce qui allait se passer et qu'ils n'ont rien fait pour éviter quoi que ce soit dans ce domaine-là.
Donc le traité européen qu'on nous propose, c'est la continuation d'un système qui nous envoie droit dans le mur. Parce qu'on ne voit pas comment maintenant, si on n'a pas une Europe qui protège un minimum ses frontières, on peut faire face à des importations de toutes sortes. On revient à notre problème de licenciement. S'il y a des licenciements dans l'automobile européenne, c'est pas pour des questions de surcapacité, etc. C'est parce qu'on veut faire moins cher ailleurs des Europes qu'on va des voitures qu'on va racheter. C'est tout. Le taxi avait montré déjà ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
On oublie les clients, il faut avoir des clients pour vendre des voitures.
Ouais, mais ça, c'est une vieille idée keynésienne qui a plus court.
Ah, bah non, mais moi, je suis vieux.
Keynes est mort depuis très longtemps et on a oublié Keynes entre nous.
Moi, j'ai mon certificat d'études primaires, excusez-moi.
Et en plus, quand il y a un bon marché, comme pour PSA, par exemple, le marché iranien, où le PSA vendait 650 000 bagnoles par an, eh bien, pour des raisons hors économique, on ne peut plus vendre de bagnoles aux Iraniens.
Mais bien sûr, mais là le pouvoir est encore fort. Et ils ont le pétrole en plus, donc bon, il y a des monnaies d'échange dans tous les sens.
Donc ils déclarent la guerre à personne, eux.
Voilà, par exemple.
En plus.
Et donc on est dans des systèmes quand même qui sont assez particuliers. Je ne sais pas, mais
les dés sont pipés, en fait.
On parlait depuis le début du coût du travail. Et tu disais, y a une problématique. Bah oui, c'est la problématique libérale. Or, l'économie n'est faite que de rapports de force. Moi, je tue l'autre quand je suis dans un cadre concurrentiel.
C'est la guerre.
C'est la guerre économique constamment. Donc, moi, je n'ai jamais intérêt à avoir un concurrent. La tendance naturelle, c'est Marx qui le rappelait,
c'est
du capitalisme, c'est quoi ? C'est la tendance à la monopolisation croissante des pouvoirs qui sont les pouvoirs de l'économie. La finance a accentué tout ça et qu'on regarde quand même, et c'est ça qui est extrêmement important, les réseaux qui se sont mis en place depuis 20-30 ans en France et en Europe, ce sont des réseaux qui sont faits de gens de pouvoir, de financiers et de grands groupes. Avec tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a tout un ensemble de sous-fifres, des fous du roi, etc., qui sont les journalistes, qui sont les économistes.
Les
parce que beaucoup d'économistes, tu parlais des économistes contestataires, il y en a de plus en plus.
De plus en plus.
Mais parce qu'ils s'aperçoivent quand même qu'ils ont raconté beaucoup de conneries. Hein. Voilà.
Donc encore 10 secondes pour clôturer. Et après, je laisse la parole à Marc et nous vous quitterons donc, sur une chanson dont vous connaissez la musique, mais les paroles sont différentes.
Je voulais quand même dire à Benoît que finalement, il n'y a pas plus totalitaire que le système libéral.
Ben absolument. Le système libéral, si on le laisse faire, s'étend partout. Parce que c'est le système qui permet, via l'idéologie de la liberté économique, de manipuler tout.
Et curieusement, on nous enseigne tous les jours que le totalitarisme, c'est le grand méchant, c'est le grand Satan. Mais finalement, le totalitarisme, c'est le libéralisme.
Ah oui, c'est le marché. On dit que c'est le marché. Moi, je n'ai jamais vu de marché. Hein.
Ouais,
d'accord. Le marché, c'est quelque chose qui est évanescent. Et ça justifie,
la main du marché.
Ça justifie tout. La main invisible.
La main invisible
voilà. De Smith. Ouais.
On aura l'occasion d'en reparler. Donc, ouais.
Marc, tu as quelque chose à nous présenter, Marc.
Oui, j'ai mis l'information donc, à communiquer à nos chers auditeurs de 106,6 Radio Campus Lille. Une information en provenance du réseau Sortir du nucléaire. Alors ça pourrait être aussi un jour un débat, ça.
Dans l'énergie, bien sûr.
Je les ai d'ailleurs invités à venir dans nos studios. Donc c'est le collectif Nord-Pas-de-Calais du réseau Sortir du nucléaire qui organise un rassemblement le samedi 13 octobre, place de la République à Lille, à 15h. Et leur mot d'ordre, c'est Gravelines 30 ans, ça suffit, arrêt immédiat des réacteurs nucléaires de plus de 30 ans. Donc je rappelle la date, c'est rassemblement samedi 13 octobre, 15h, place de la République à Lille. Un site, si vous voulez avoir des informations, www.sortirdunucléaire.org. Merci.
Et que notre magazine qui va suivre, c'est le magazine animé par Louis, ça s'appelle Fenêtre sur le monde. Il a invité des gens autour d'un spectacle qui s'appelle La pluie d'oiseaux, un concert avec des musiciens kurdes et des musiciens et chanteurs français. Ça va se passer demain jeudi 4 octobre, donc vous en saurez plus en écoutant Louis dans quelques instants sur Campus.
Voilà, puis pendant qu'on y est, continuons les annonces, on ne passera pas la dernière chanson en entier. Je rappelle que le 27 octobre à Villeneuve-d'Ascq, il y a un bal folk avec le groupe Erreur de Casting organisé par Amnesty International. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a un film extrêmement intéressant, excusez-moi, je le cherche sur l'agenda de Radio Campus Lille.
Bon, on en profite pour rappeler aussi le titre de l'ouvrage de Benoît Boussemard qui était notre invité. Là, ça s'appelle Collusion, la collusion des pouvoirs face à la crise. Grande fortune, banquiers, politiciens, grande famille, tout ça. C'est aux éditions Etimpuis et qu'avant cet ouvrage, Benoît Boussemard est bien connu aussi pour s'être intéressé particulièrement à la famille Mullier et au groupe Mullier. Voilà. Et aux éditions Etimpuis, vous aurez toutes les informations.
Le 11 octobre, donc, projection du film Myland, organisé par l'association France-Palestine de Villeneuve-d'Ascq au Méliès, si mes souvenirs sont exacts. Donc c'est sur l'agenda de Radio Campus. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Wilgoman, bienvenue, welcome. Requin, pollueur, voleur. Le canton de Vaud saura vous choyer. L'impôt, c'est cadeau, y a rien à payer. Welcome, bienvenue, welcome. On fait rabais, un gros rabais, très gros rabais. Si vous pillez le tiers-monde, bafouez les droits de l'homme, salopez la planète.
Y'a pas de souci, venez, on vous adore. Si vous vendez des poisons, déportez des populations.
Vous ruinez les paysans, affamez les enfants, détournez des millions.
C'est tout bon.
Welcome, bienvenue, welcome. Valais, Monsanto, Eton. Venez tous chez nous, on est enchantés.
Enchantés.
Et en a point comme nous pour vous dorloter. Welcome, bienvenue, welcome. On fait rabais, un gros rabais, très gros rabais. Vous semez partout des OGM. Ici on n'en veut pas, mais pas de problème. Et vous détruisez les abeilles. Ça nous donne pas le pourdon, ce qui compte, c'est l'oseille.
Tout le monde vous condamne. Nous, on n'a pas d'état d'âme. Vous massacrez des indigènes, c'est pas ça qui nous gêne. On s'en fout.
Bienvenue chez nous. Et voici votre grand chambellan, Pascal Roulis. Avec lui, toute la droite à votre service. Ils sont là pour satisfaire vos caprices. Et tout ça, c'est gratuit, tout bénéfice. Des impôts, les vaudois, on paye assez. Vous êtes invités. Allez, welcome et bienvenue. Welcome. Requin, pollueur, voleur. Le canton de Vaud saura vous choyer. L'impôt, c'est car l'Amazonie, vous contaminez la manne Namibie, vous vous engraissez sur des familles. Ah non, je sais, le bétail crève autour de vos mines, les enfants meurent de votre chimie, vous versez des pots de vin dans leur pays, vous êtes complètement pourris. Alors venez, venez, il n'y aura aucun impôt.
Non, moi je suis petit entrepreneur vaudois, j'ai un peu de la peine à tourner, il me faudrait une remise d'impôt.
Alors la pas question, tintin. Aucun rabais, aucun.